VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Le chef des extrémistes islamistes somaliens, Chebab Ahmed Diriyé, a diffusé hier soir un rare message audio dans lequel il accuse les pays occidentaux de vouloir piller les ressources naturelles de la Somalie et dénonce les prétentions du Kenya sur les eaux maritimes somaliennes. Ce message semble avoir été enregistré récemment car Ahmed Diriyé, également connu sous le nom d'Ahmed Oumar Abou Oubeda, y évoque des événements comme les élections dans l'État semi-autonome du Jubaland à la fin du mois d'août dernier. Ses prises de parole sont rares. Son dernier message audio remontait à 2016 lorsqu'il avait dénoncé le pillage économique de la Somalie par la Turquie. Le général Stephen Townsend, le chef du commandement militaire américain pour l'Afrique, l'AFRICOM, a indiqué hier que son pays s'engageait à renforcer et à équiper l'armée du Niger dans la lutte anti-djihadiste et contre les activités criminelles. Les détails avec Irénée Amanongo.
C'était à l'occasion d'un entretien avec le président nigérien Muhammadu Issifou sur des questions liées à la sécurité, la défense, notamment la collecte et le partage de renseignements, la surveillance et la reconnaissance. Les États-Unis, à travers le général Stephen Townsend, se sont engagés à renforcer et à équiper les forces de défense et de sécurité du Niger pour les aider à mieux faire face aux menaces régionales et dissuader les activités criminelles dans le pays. Selon la radio publique nigérienne, le général Townsend visitera les bases militaires américaines 101 et 201 installées à Niamey et à Agadez dans le nord nigérien. D'après le général américain, la mise en service effective de la base d'Agadez apportera au Niger plus de capacité de mission, d'agilité, de polyvalence et une gamme d'options de sécurité. Le 4 octobre 2017, 4 soldats américains et 5 militaires nigériens ont été tués par des djihadistes près de Tongo Tongo, non loin de la frontière avec le Mali. Cette attaque a été revendiquée par le groupe État islamique dans le Grand Sahara.
Au Nigeria, l'armée a fermé les locaux de l'ONG française Action contre la faim dans le nord-est du pays, foyer de l'insurrection djihadiste de Boko Haram. Claire Morin-Givou.
Hier, des militaires à bord de 2 véhicules blindés sont arrivés devant les locaux d'Action contre la faim à Damaturu, dans l'état de Yobe, et ont évacué le personnel de l'ONG Manu Militari. La veille, ce sont les bureaux d'ACF Maïdougouri qui ont été fermés par l'armée sans aucune explication. Le directeur pays d'ACF, Chachouat Saraf, a confirmé la fermeture de ses bureaux tout en affichant sa grande surprise. Pour l'instant, nous n'avons toujours aucune information, dit-il. L'armée nigériane, qui a tenu une conférence de presse hier à Maïdougouri sur la situation dans le nord-est, n'a fait aucun commentaire. Les relations entre l'armée nigériane et les ONG dans le nord-est du pays ont toujours été très tendues. En août 2017, des soldats avaient mené une fouille jugée illégale dans un camp des Nations Unies de Maïdougouri et les bureaux à Abuja d'Amnesty International sont régulièrement visés.
Direction le Tchad, où on constate une mésentente entre les acteurs politiques quant à la tenue des législatives de 2019. Le président Idriss Déby Itno a rejeté le calendrier proposé par la CENI et demandé à l'organe électoral d'élaborer plutôt un programme réaliste permettant de tenir le scrutin d'ici la fin de l'année. En N'Djamena, retrouvons notre correspondant André Kodmajinga.
Il serait matériellement difficile d'organiser ces législatives d'ici la fin de l'année en raison du court délai et de l'insécurité dans l'est du pays. Coincé, le président de la CENI, Koudi Mahamat, a dans une lettre adressée au chef de l'État proposé des élections couplées et souhaite que les dates du scrutin soient fixées en avril ou en novembre 2020. Le directeur du cabinet civil de la présidence, Abdoulaye Sabre Fadoul, réplique dans un courrier que ce calendrier ne convient pas à celui du président Déby conformément à ses engagements. Le chef de l'État ne saurait approuver l'une ou l'autre option proposée par la CENI, a déclaré Abdoulaye Sabre Fadoul. Il semble cet organe de prendre toutes les dispositions pour que les élections aient lieu avant la fin de l'année ou en janvier 2020.
Si aujourd'hui on fait de l'improvisation, ça va nous conduire à une élection bâclée qui peut permettre à personne d'imaginer la suite.
Maître Bongourou Thiofile, président du parti pour le rassemblement et l'équité au Tchad. Pour lui, il faut régler le problème d'insécurité dans l'est du pays avant d'évoquer la question des élections.
Aujourd'hui, le pays est pratiquement en une situation de guerre entre nos nos communautés. C'est ça ce qui devait plutôt constituer une urgence pour l'État que de parler d'une élection qui ne peut pas se faire dans des conditions optimales. Vous ne pouvez pas parler d'une élection et vous reconduisez à un état d'urgence. Ça limite les mouvements.
Selon Mahmad Zen Chérif, chef de la diplomatie tchadienne, cette mesure d'exception n'entamera en rien le processus électoral en cours.
La crainte légitime de l'interdiction des réunions publiques sera traitée avec toute l'attention requise. Des conditions optimales de sécurité et de transparence seront créées pour que les acteurs en compétition fassent valoir leur programme et les candidats puissent battre campagne en toute sécurité.
Doumlar Laurent Ibrahim, spécialiste en gestion électorale, estime pour sa part qu'il serait difficile d'organiser ces élections d'ici la fin de l'année au regard des dispositions du code électoral.
Surtout les recours des électeurs. On vous dit que l'électeur peut intenter par simple lettre adressée au démembrement de la CENI compétente dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication des listes électorales provisoires. Et le démembrement de la CENI a 1 mois pour répondre. Ça fait 4 mois déjà. Quand est-ce qu'on a commencé à réviser la liste électorale? Quand est-ce qu'on a publié la liste électorale pour permettre à l'électeur d'introduire ses recours? Techniquement, c'est irréaliste. On va utiliser les données de 2016 qui ne seront plus fiables. Soit on va faire semblant de vouloir réviser la liste électorale et qu'on ne va pas toucher toutes les circonscriptions. Donc ça serait du coup des élections truquées.
Cette élection législative permettra de renouveler la troisième législature dont le mandat a pris fin il y a 4 ans. André Kodumadingar Ndjamena, VOA Afrique.
Merci André. L'acteur américain George Clooney a appelé jeudi la communauté internationale à intervenir contre la corruption au Soudan du Sud, dénonçant les liens qui unissent multinationales, magnats, gouvernements étrangers et officiels du pays. Présentant à Londres un rapport de l'ONG anticorruption de Sentry qu'il a cofondé, George Clooney a exhorté les États-Unis et l'Union européenne à sanctionner les responsables de la corruption et leurs réseaux dans ce pays. Dans un rapport de 64 pages intitulé « La prise du Soudan du Sud », l'ONG américaine accuse un certain nombre d'hommes d'affaires et de multinationales d'être des profiteurs de guerre, complices de politiciens et militaires sud-soudanais en ravageant la plus jeune nation du monde. La justice marocaine a rejeté la demande de mise en liberté d'une journaliste poursuivie pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. Adja Raissouni, âgée de 28 ans, reporter au quotidien arabophone Akbar Al-Yaoum, risque jusqu'à 2 ans de prison en vertu du code pénal marocain qui sanctionne les relations sexuelles hors mariage et l'avortement quand la vie de la mère n'est pas en danger. La décision des juges a été communiquée jeudi en fin de journée aux avocats des médias proches du pouvoir qui l'ont relayé. Une dizaine d'heures plus tôt ont attribué ce refus à la gravité des charges et à l'insuffisance des garanties. Les islamistes modérés d'Ennahda ont annoncé jeudi qu'ils soutiendront Kais Saied au deuxième tour de l'élection présidentielle, alimentant les chances de cet ancien professeur de droit de l'emporter le 13 octobre prochain en Tunisie. Kais Saied sera opposé à Nabil Karoui, un homme d'affaires actuellement incarcéré pour fraude fiscale. Les deux hommes qui n'appartiennent pas au sérail politique tunisien ont créé la surprise dimanche en se hissant au deuxième tour de la présidentielle. Et les résultats quasi définitifs des élections législatives israéliennes publiées aujourd'hui par la commission électorale ont confirmé une impasse politique, du moins, aucun parti des deux arrivés en tête ne pouvant former une coalition en Israël. Le parti bleu-blanc centriste de Benny Gantz a obtenu 33 sièges contre 31 pour le Likoud du premier ministre sortant Benjamin Netanyahou, selon la commission électorale qui a précisé que les résultats définitifs seraient donnés mercredi prochain. Le président israélien Reuven Rivlin, qui doit confier la tâche de former le gouvernement à un élu, après avoir consulté l'ensemble des partis au Parlement, entamera dimanche les consultations. Et puis, des élus du Congrès américain ont échoué jeudi à obtenir des informations sur un signalement effectué par un lanceur d'alerte au sein des services de renseignement qui, selon le Washington Post, s'est inquiété de certains échanges entre le président Donald Trump et un dirigeant étranger. Le lanceur d'alerte a trouvé particulièrement préoccupante une promesse faite par le président américain à ce dirigeant dont l'identité n'est pas précisée par le quotidien. Le 12 août, il a effectué un signalement officiel auprès de l'inspecteur général des services de renseignement, Michael Acheson, qui a estimé que la sensibilité de l'affaire imposait une notification urgente au Congrès Monsieur Tisson a été interrogé jeudi à huis clos par la commission du renseignement, mais il n'est pas allé plus loin. Jean-Roger Billon, fin de ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.